Première partie. Louvre. Chapitre 1. Sandro Botticelli apprend à recevoir. La grande pyramide de verre amusait Mona. Hissée insolemment au milieu des pavillons de pierre du palais du Louvre, sa forme éthérée, sa transparence, sa manière de capter le soleil froid de novembre l'enchantaient. Son grand-père ne parlait pas beaucoup. Elle voyait pourtant bien qu'il était d'excellente humeur, car il serrait sa petite main dans la sienne avec la tendresse assurée qu'ont les gens heureux et balançait les bras avec souplesse. Sa jovialité, quoique muette, rayonnait d'une manière enfantine. « Quelle est belle la pyramide, Dadé ! On dirait un grand chapeau chinois, » jugea Mona, tout en fendant les grappes de touristes sur le parvis. Henri la regarda et mêla à son sourire une espèce de moue dubitative. Cela lui donna un air bizarre qui fit ricaner la petite. Ils pénétrèrent dans la structure de verre, passèrent la sécurité, glissèrent le long d'un escalator, se retrouvèrent dans l'immense hall si peu différent de ceux des gares ou des aéroports et prirent le chemin de l'aile de nom. L'agitation autour d'eux était étouffante. Étouffante, oui, parce que la plupart des visiteurs qui composent la foule d'un grand musée ignorent ce qu'ils désirent faire. Ils produisent un flottement généralisé, infusent l'atmosphère stagnante, hésitante et même un peu trouble, propre à ces lieux lorsqu'ils sont victimes de leur succès. Au milieu du brouhaha, Henri fléchit ses jambes immenses et maigres pour parler à sa petite fille les yeux dans les yeux. Il faisait cela chaque fois qu'il avait une chose vraiment importante à lui dire. Sa voix minérale, pure et grave, couvrait le vacarme environnant. On aurait dit qu'elle réduisait au silence les vains palabres et les éclats fatigants de l'univers entier. « Mona, chaque semaine, nous irons tous les deux voir une œuvre. Une seule œuvre, pas plus, au musée. Ces gens autour de nous aimeraient tout avaler d'un coup. » Et ils se perdent sans savoir comment ménager leurs envies. Nous serons beaucoup plus sages, beaucoup plus raisonnables. Nous regarderons une seule œuvre. D'abord sans dire un mot, pendant de longues minutes, et puis ensuite, nous en parlerons. Ah bon ? Je croyais qu'on irait chez le docteur. Elle aurait voulu dire le pédopsychiatre, mais n'était pas tout à fait sûre du mot. Dis-moi, Mona. « Tu as envie d'aller chez le psychiatre, après ? C'est important pour toi ?»«
Tu parles si j'en ai envie. Tout plutôt que ça. »«
Alors, écoute-moi bien, ma chérie. Il n'y en aura pas besoin si tu regardes avec attention ce que nous allons voir. »«
C'est vrai ?
Et est-ce que c'est grave de se passer du... » Elle buta encore sur le mot et opta pour sa formulation plus simple.
« Du docteur ?»«
Non, ce n'est pas grave. Je te le jure sur ce qu'il y a de beau sur Terre. » Après avoir parcouru un dédale d'escaliers, Henri et Mona se retrouvèrent dans une salle aux dimensions modestes, par laquelle on transitait beaucoup, mais où personne ou presque ne prenait la peine d'accrocher ses yeux à l'œuvre qui y trônait. Henri lâcha la main de sa petite fille et lui dit avec une douceur infinie. À présent, regarde, Mona. Prends toutes les minutes qu'il faut pour regarder. Pour regarder vraiment. Et Mona se campa, intimidée, devant une peinture très abîmée, sévèrement lézardée en plusieurs endroits, où manquaient des morceaux. Une peinture qui, de prime abord, diffusait le sentiment d'un passé altéré et lointain. Henri la contemplait lui aussi, mais il examinait surtout sa petite fille, sentait son vacillement, sa perplexité. La voilà qui fronçait les sourcils, puis étouffait un rire un peu gêné. Il savait que même face à un chef-d'œuvre de la Renaissance, une fillette de 10 ans, si vive, curieuse, sensible et maligne fut-elle, ne pouvait pas tomber immédiatement en extase. Il savait que, contrairement à une idée reçue, il fallait du temps pour pénétrer la profondeur de l'art, que c'était un exercice fastidieux et non un ravissement facile. Il savait aussi que Mona, parce que c'était lui qui le lui demandait, allait jouer le jeu, et que malgré son embarras, elle scruterait avec l'attention promise les formes, les couleurs, la matière. L'image se découpait de manière simple. Tout à gauche, on devinait une fontaine, devant laquelle, à la façon d'une frise, se déployaient debout quatre jeunes femmes aux cheveux longs et bouclés, étonnamment semblables. Elles se saisissaient les unes les autres par le bras, s'enchevêtrant comme si elles composaient une guirlande humaine, rythmée par la diversité de leur tenue. Vert et mauve pour la première, blanche pour la deuxième, rose pour la troisième, jaune-orangé pour la quatrième. Ce cortège multicolore donnait l'impression d'un mouvement vers l'avant, et face à lui, à droite de l'œuvre, isolée sur un fond neutre, se tenait une cinquième femme, jeune, extrêmement belle, dotée d'un magnifique pendentif et d'une robe pourpre. Elle aussi semblait animée d'un mouvement vers l'avant, comme si elle allait à la rencontre du cortège. Elle tendait d'ailleurs dans sa direction une espèce de linge, au sein duquel une des créatures, celle en rose, posait délicatement quelque chose. Quoi donc ? Impossible à dire. L'objet était effacé. Il y avait encore, au premier plan, dans un angle, un garçonnet aux cheveux blonds, de profil, légèrement rieur. Le décor était tout à fait dépouillé. Seul faisait écho à la fontaine de gauche, une colonne tronquée et très estompée qui fermait la scène à droite. Mona joua le jeu. Mais au bout de 6 minutes, c'en était déjà trop. 6 minutes devant une image d'Ekati constituait une épreuve inhabituelle et pénible. Alors elle se tourna vers son grand-père et elle entama la conversation avec une insolence qu'elle seule pouvait se permettre. « Tadé, il est bien abîmé ton tableau. Ton visage à côté, il paraît tout neuf. » Henri regarda l'œuvre et toutes les dégradations qui la balafraient. Il fléchit sur ses genoux. « Tu ferais mieux de m'écouter au lieu de dire des bêtises. »« Un tableau, dis-tu. Raté. » »« Déjà, Mona, ce n'est pas un tableau. C'est ce qu'on appelle une fresque. »« Tu sais ce que c'est, une fresque ?»« Oui, je crois, mais je l'ai oublié. »« Une fresque ?» C'est une peinture qu'on fait sur un mur et c'est très fragile. Parce que si le mur s'abîme, et un mur s'effrite beaucoup au cours du temps, eh bien la peinture s'abîme aussi. Pourquoi est-ce que l'artiste a peint sur ce mur? Parce que c'est le Louvre? Pas du tout. C'est vrai qu'un artiste pourrait avoir envie de faire une fresque au Louvre. Car le Louvre est le plus grand musée de la planète et que ce serait normal qu'un peintre ait envie d'y poser directement son œuvre, pour qu'elle soit comme la peau du palais. Mais vois-tu, Mona, le Louvre n'a pas toujours été un musée. C'est le cas depuis à peu près 200 ans seulement. Avant, c'était un château où vivaient les rois et la cour. Quand l'artiste a exécuté cette fresque, c'était vers 1485. Et il ne l'a donc pas réalisée pour les parois du Louvre, mais pour celle d'une villa de Florence. Florence. Elle tripota machinalement le pendentif autour de son cou. « Moi, ça me fait penser au prénom d'une ancienne fiancée à toi, avant mamie, hein ?»«
Ça ne me dit rien, mais ce n'est pas impossible. »«
Et écoute un peu à présent. »« Florence, c'est une cité italienne, en Toscane précisément. »« Et c'est le berceau de ce qu'on appelle la Renaissance. »« Au XVe siècle, le Quattrocento, disent les Italiens, » Florence a connu une extraordinaire effervescence. Il y avait environ 100 000 habitants, et la ville était prospère, grâce au commerce et à la banque. Et, vois-tu, des ordres religieux, des hauts dignitaires politiques, et même de simples citoyens parmi les plus élevés dans l'échelle sociale, ont voulu mettre à profit leurs richesses et témoigner de leur prestige en soutenant la création de leurs contemporains.
On dit d'eux qu'ils ont été de grands mécènes. Alors des peintres, des sculpteurs, des architectes ont profité de leur confiance et des moyens qu'ils leur accordaient pour élaborer des tableaux, des statues ou des bâtiments incroyablement beaux.
Ils étaient en or, je parie.
Pas tout à fait. Il y avait, en effet, au Moyen-Âge, de très beaux tableaux recouverts en abondance de feuilles d'or. Cela donnait de la valeur à l'objet, et cela symbolisait la lumière divine en plus. Mais à la Renaissance, la peinture se passe progressivement de l'effet clinquant de ce qui est doré, pour chercher à mieux rendre la réalité telle qu'on la voit, avec ses paysages, la singularité des visages, les animaux, le mouvement des êtres, des choses, du ciel et de la mer.
On aime la nature, c'est ça?
C'est très exactement ça. On se met à aimer la nature. Mais tu sais que quand on parle de nature, on ne parle pas seulement de ce qui pousse sur la terre.
Ah?
Et on parle de quoi d'autre? On parle aussi, de façon plus abstraite, de la nature humaine. La nature humaine, c'est en fait ce que nous sommes profondément, avec nos zones d'ombre et de lumière, nos défauts et nos qualités, nos peurs et nos espoirs. Or, vois-tu, c'est justement cette nature humaine que cherche à améliorer l'artiste.
Et comment donc?
Si tu cultives ton jardin, tu fais du bien à la nature. Tu lui permets de s'épanouir. Cette fresque cherche à faire du bien à la nature humaine en lui disant quelque chose de très simple mais d'essentiel et que tu devras retenir à jamais, Mona. Mais Mona, pour provoquer le vieil homme, se boucha les oreilles et ferma les yeux, comme si elle ne voulait rien entendre ni voir de ce qu'il pourrait lui dire. Au bout de quelques secondes, elle entr'ouvrit discrètement une paupière pour observer sa réaction. Il souriait nonchalamment. Alors elle cessa son petit jeu et mobilisa toute son attention, car elle sentait que son grand-père, après ces longues minutes de silence, de contemplation et de discussion, après ce petit voyage à travers l'image abîmée qui se déployait sous ses yeux, allait enfin lui révéler un de ses secrets qu'on garde gravé au fond du cœur. Henri lui fit signe de porter son regard sur la zone un peu effacée, où il semblait y avoir un objet que la jeune femme de droite prenait entre ses mains. La petite fille s'exécuta. Le cortège de ces quatre femmes à gauche est composé de Vénus et des trois Grâces. Ce sont des divinités généreuses. Et elles offrent un cadeau, on ne sait pas lequel, parce qu'il manque un peu de peinture, à une jeune fille. Les trois Grâces sont ce qu'on appelle des allégories, Mona. Elles n'existent pas dans la vraie vie et tu ne les croiseras jamais. Mais elles représentent des valeurs importantes. On dit qu'elle représente les trois étapes qui font de nous des êtres sociables et hospitaliers, c'est-à-dire des humains vraiment humains. Et cette fresque dit à quel point ces trois étapes sont capitales. Elle cherche à les ancrer en chacun de nous.
Trois étapes? Quelles étapes?
La première consiste à savoir donner. La troisième, à savoir rendre. Et entre les deux, il en est une sans laquelle rien n'est possible, qui est comme une sorte de clé de voûte, une clé de voûte qui porte toute la nature humaine.
Laquelle, Dadé?
Regarde, que fait-elle donc, la jeune fille à droite?
Tu me l'as dit,
elle a de la chance parce qu'elle reçoit un cadeau.
Exactement, Mona,
elle reçoit un cadeau. Et c'est ça qui est absolument fondamental. Savoir recevoir. Ce que dit cette fresque, c'est qu'il faut apprendre à recevoir. Que la nature humaine, pour être capable de grandes et belles choses, doit être prête à accueillir. Accueillir la bienveillance d'autrui, son désir de faire plaisir. Accueillir ce qu'elle n'a pas encore et ce qu'elle n'est pas encore. Il sera toujours temps pour celui qui reçoit de rendre. Mais pour rendre, c'est-à-dire donner à nouveau, il est indispensable d'avoir été capable de recevoir. Tu comprends, Mona?
C'est compliqué, ton histoire. Mais oui, je crois que je comprends.
Je suis certain que tu comprends. Et vois-tu, si ces dames sont si belles, avec ce dessin si souple et si gracieux,
cette ligne ininterrompue qui ne souffre aucun heurt, aucun doute. C'est pour exprimer l'importance de cette continuité, de cette chaîne qui doit lier les humains entre eux et améliorer leur nature. Donner, recevoir et rendre. Donner, recevoir et rendre. Donner, recevoir et rendre. Mona ne savait plus quoi dire. Elle ne voulait surtout pas décevoir son grand-père. Elle avait déjà usé d'humour pendant leur conversation et se tut pour éviter d'ajouter quoi que ce soit de trop naïf, alors qu'elle savait très bien qu'il lui parlait et l'emmenait dans cet immense musée pour qu'elle devienne un peu plus adulte. Pour l'heure, elle éprouvait juste un tiraillement, parce que cet appel à grandir, cette ivresse exploratoire d'un monde nouveau, avait une puissance magnétique extraordinaire. Et ce, d'autant plus que l'appel venait d'Henri, qu'elle vénérait. Pourtant, au plus profond de son âme, existait déjà ce pressentiment terrible que ce que l'on rend, on ne le retrouvera jamais plus. Et ce regret, vif, quoique très lointain, d'une enfance évanouie pour toujours, lui tordit le cœur.
« On y va, Dadé ? En route, mauvaise troupe ?»«
Allez, Mona, en route. » Henri reprit sa main dans la sienne, et ils quittèrent le Louvre à pas lents, sans mot dire. Au dehors, la nuit commençait à tomber. Henri n'ignorait rien du trouble qui venait de faire vaciller sa petite fille, mais il refusait catégoriquement de ménager les êtres au prétexte de ne s'assurer que de bons moments, pleins et séduisants en leur compagnie. Non, il savait très bien que l'existence n'est valable qu'à condition d'en assumer les âpretés, et que celle-ci révèle, une fois passée au crible du temps, une matière précieuse et fertile, une substance belle et utile qui permet à la vie d'être vraiment la vie. En outre, par ce miracle de l'enfance, le trouble de Mona ne dura guère. Tout en cheminant allègrement, elle se mit à chantonner. Henri ne l'interrompait jamais dans ces moments-là, qu'il trouvait incroyablement touchant. Et puis soudain, à l'approche de chez elle, Mona cessa, rattrapée par le mensonge complice dont ils étaient convenus pour éviter les séances chez le pédopsychiatre. Elle ouvrit ses grands yeux bleus et tourna sa petite tête coquine en riant du mauvais tour qu'il jouait à ses parents. « Dadé, qu'est-ce que je dis si papa et maman me demandent le nom du médecin que je suis allé voir ?»«
Dis-leur qu'il s'appelle le docteur Botticelli. »